Globalement, ça a été, je crois, plutôt bien reçu, plutôt bien compris. Je regrette qu'à plusieurs reprises, on m'ait parfois mis de manière un peu binaire face à des personnes qui n'y connaissaient rien à la jeunesse, mais on se disait, bon, ils sont plus âgés, donc on va créer un clash. Et certains, je dis bien certains, pas la plupart, mais certains journalistes l'ont compris comme étant un livre qui était agressif à l'égard des plus âgés, alors que c'était au contraire un livre qui voulait réconcilier les générations, qui n'était pas du tout un procès fait aux boomers. C'était vraiment un livre qui visait à défendre la jeunesse, à permettre aux plus âgés et aux jeunes eux-mêmes de mieux comprendre ce que sont les jeunes et les jeunesses, parce qu'en réalité, la jeunesse, ça ne veut rien dire, bien sûr. Sociologiquement, il y a des jeunesses, des milieux sociaux différents, des territoires différents, des classes d'âge d'ailleurs au sein de la jeunesse qui sont différentes, puisque mon livre parle des 18-29 ans et que la vie n'est pas la même à 18 ans ou à 28 ans. Mais globalement, je suis plutôt ravie de l'accueil qui lui a été réservé.
Un point qui, moi, me surprend, c'est que historiquement, on n'a jamais autant donné la parole aux jeunes qu'à notre époque. Et pour autant, ils sont extrêmement délaissés et à plein de niveaux, donc notamment bien évidemment au niveau professionnel. Est-ce qu'on pourrait en conclure donc, que la société est structurellement anti-jeune et est-ce que dans ce cas, peut-être il faudrait repenser complètement la société?
Je crois que la société d'aujourd'hui est en tout cas structurellement défavorable aux jeunes. Et c'est tout ce que j'ai essayé de montrer sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan politique, sur tous les aspects en fait aujourd'hui de la société. Et ça se traduit politiquement, puisqu'on l'a vu par exemple pendant le Covid, et ça a été un cas de grande politique anti-jeunes, ou en tout cas de politiques qui excluaient les jeunes, je crois, les jeunes ont été les grands oubliés des politiques lors de la pandémie. On peut reprendre les discours d'Emmanuel Macron, notamment du début, où on pense aux actifs avant tout. On pense aux plus âgés, on pense aux retraités qu'il faut bien sûr protéger face à la maladie. Et on ne pense pas à ces jeunes qui vont collectivement, pour beaucoup d'entre eux, sombrer dans une très grande précarité parce qu'il n'y a pas de plan pour l'université, parce qu'il n'y a pas de plan pour rattraper tous les jeunes qui sont dans des emplois précaires, qui n'ont pas le droit au chômage partiel, tous ces jeunes qui font des petits jobs et qui, pourtant, ces jobs sont vitaux pour eux à ce moment-là et ils vont disparaître du jour au lendemain et ça va être absolument dramatique et pour lesquels on ne va pas avoir de politique publique sans que ça n'émeuve grand monde. Et c'est seulement 8 mois plus tard où on se rend compte, quand on a ces images de files de jeunes qui attendent pour de l'aide alimentaire, qui sont des files immenses où on se dit « Ah, peut-être qu'on a un problème », qu'on commence à avoir des mesures qui sont en réalité des mesurettes, hein, qui sont en tout cas totalement insuffisantes et qualifiées comme telles par différents économistes que j'ai interviewés dans le livre, pour essayer d'aider un petit peu les jeunes. Mais c'est toujours la dernière roue du carrosse. Et on n'a jamais de politique à la hauteur en ce qui concerne les jeunes. Et même quand on a des politiques, ce sont ce que j'appelle des politiques pour les jeunes, mais à destination des vieux. En tout cas, des politiques qui vont plaire aux plus âgés. Et on le voit là, vraiment de manière très frappante avec la mise en place du service national universel, qui est en train de devenir obligatoire, hein, il faut le rappeler, et qui est une espèce de substitut du service militaire sans le côté militaire, mais quand même avec le côté obligatoire. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de comprendre. Et ça, si vous demandez aux jeunes, et c'est justement si on les écoute, si on leur donne la parole, si vous demandez aux jeunes de quoi vous avez besoin aujourd'hui, je connais très peu de jeunes, voire pas de jeunes, qui vont vous répondre vraiment, on a besoin d'un service national universel.
Moi, ça me fait penser à tous ces jeunes qui se sont beaucoup mobilisés par l'histoire, qui ont été au cœur de mouvements tels que bon, les mouvements de la place Tiananmen, les printemps arabes, les mouvements contre les lois de ségrégation aux États-Unis. On voit également, et vous le précisez dans votre livre, de plus en plus de jeunes s'engager en associatif. Est-ce que vous pensez que, dans les années à venir, les jeunes réussiront à s'emparer de leurs rêves, de leurs désirs, à réussir à en faire une réalité?
Je pense que une partie des jeunes se mobilisent déjà, et je crois que dans tous les mouvements que vous avez cités, c'est important de rappeler qu'à aucun moment, toute une génération a été mobilisée de la même manière dans un pays ou à une époque. Et donc même mai 68, qui est souvent pris et que je traite dans le livre comme un exemple de mobilisation de la jeunesse, en réalité, on est très 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 loin à l'époque d'avoir toute la jeunesse qui se mobilise. Donc la jeunesse est toujours diverses, à ses fractures, à ses aspirations différentes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui relie quand même beaucoup de jeunes, c'est le fait d'avoir envie de vivre sur une planète habitable. Et il y a des éléments de contexte. C'est-à-dire qu'il y a aussi énormément de jeunes qui sont touchés par la précarité de l'emploi, par les difficultés du marché du travail. Donc par exemple, ça c'est une aspiration, j'allais dire commune, ou en tout cas commune à beaucoup de jeunes, qui est celle de pouvoir vivre d'un travail qui leur plaît, par exemple. De là à avoir un mouvement politique uniforme, je crois pas que ça va arriver, parce que ça n'est jamais arrivé, en fait, d'avoir d'un coup toute la jeunesse. Par contre, moi, ce que je vois et ce que j'ai identifié clairement dans cette enquête, où j'ai quand même interviewé beaucoup, enfin des dizaines et des dizaines de jeunes, c'est ce terreau qu'il y a à cette mobilisation. Et je crois que beaucoup de jeunes sont prêts à se mobiliser dans un mouvement qui leur semblerait légitime et gagnable, entre guillemets, c'est-à-dire utile. Aujourd'hui, ce qui retient beaucoup de jeunes dans la mobilisation politique au sens très très large, c'est-à-dire pas seulement d'aller voter ou d'aller manifester, c'est l'impression que de toute façon ils n'y peuvent rien, et que de toute façon ça va rien changer, et que le système est trop fort, qu'il y a une inertie politique tellement forte que ça sert à rien de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais je crois que si on donne l'impression aux jeunes, ou en tout cas il y a un mouvement qui se crée, où vraiment ils ont l'impression que ça peut tout faire basculer, je pense qu'il y a vraiment un terreau chez la jeunesse dans son ensemble pour avoir un mouvement qui soit massif. Mais dans tous les cas, je ne crois pas à un mouvement de la jeunesse qui fera tout basculer tout seul. Et pour moi, il doit absolument être suivi du reste de la société, ou en tout cas d'une partie du reste de la société, et notamment des plus âgés.
Donc ce clivage entre les jeunes et les vieux, il existe apparemment depuis l'aube des temps. Hein, vous en parlez dans votre livre déjà, vous citez des exemples de Grèce antique, on a même retrouvé également des tablettes de plus de 3000 ans, où ça râle déjà contre les jeunes. Donc on pourrait croire que c'est un peu sans fin et que c'est une fatalité. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen de briser ce cycle et d'aider les jeunes d'aujourd'hui à ne pas devenir les vieux grincheux de demain ?
Alors non seulement il y a des moyens, mais on doit trouver absolument les moyens, parce qu'effectivement, si les tensions générationnelles ont toujours existé, en tout cas depuis qu'on a des traces écrites, on retrouve des diatribes très véhémentes à l'égard des jeunes pour dire qu'ils sont paresseux, qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont décadents, et donc cette incompréhension finalement, parce que je crois que c'est avant tout lié à de l'incompréhension, existe depuis toujours. Mais en revanche, ça a été intensifié par l'explosion médiatique récente, où on trouve un écho peut-être plus grand encore qu'il y a quelques décennies pour cette haine des jeunes, et voir cette stigmatisation d'une génération entière ou de plusieurs générations. Et la différence, et ce qui fait que ce moment est inédit, c'est que l'on doit absolument dépasser ce clivage générationnel pour pouvoir faire face à l'urgence climatique et à l'urgence écologique de manière plus générale, puisque c'est tout l'objet de mon livre, c'est ce que j'essaie de montrer, les jeunes seuls ne peuvent pas changer les choses, ne peuvent pas anticiper ce qui va se passer, et on a besoin par définition de changements urgents, concrets, immédiats, qui transforment l'ensemble de la société, notamment sur le plan économique, et ça on ne peut pas le laisser entre les mains des jeunes. Et qui est concerné par les conséquences du désastre écologique, avant tout les jeunes, puisqu'une personne qui est née par exemple en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc bien sûr, nous sommes tous dans le même bateau face à l'urgence écologique, mais pas tous de la même manière, et on n'en subira pas tous les conséquences de la même façon et pas avec la même longueur. Et donc c'est là toute la spécificité du moment, c'est qu'on doit collectivement faire face à ça, et on doit obtenir une forme d'empathie ou de considération du moins des plus âgés suffisante pour avoir envie non seulement de ne pas, entre guillemets, pas embêter les jeunes, mais aussi de les aider. Et c'est vraiment le point final peut-être de mon ouvrage, à la toute fin, ce que j'espère qu'on a compris, c'est qu'il ne suffit pas de simplement ne pas critiquer les jeunes avec véhémence. Il est vraiment fondamental et vital pour les jeunes d'obtenir une aide des plus âgés.